Raph Dandash, je voulais mentionner en début de semaine, et comme promis, Eric Flynn est de retour en studio comme à tous les jeudis pour nous en apprendre. Côté musique, salut Eric.
Allô.
Bonjour, bonjour. Et on fait un spécial Olivia Newton-John. On passe un peu plus du rock au pop aujourd'hui parce qu'on l'a perdu cette semaine.
Ben c'est ça, elle est décédée à l'âge de 73 ans, malheureusement, le cancer du sein qui elle traînait depuis quand même là dans les années 90 et c'est revenu graduellement en 2014. Et puis là, ben à un moment donné, ben elle a comme abandonné le combat, justement, puis elle avait demandé au médecin de ne jamais lui dire combien de temps qu'il lui reste à vivre. Elle voulait continuer sa vie, tout simplement.
Sans le savoir.
C'est ça, c'est ça.
Ouais, c'est triste, puis c'est une bonne question, là, tu sais, puis je vais la poser à vous deux. Vous autres, si on sait combien de temps il te reste à vivre, mettons que c'est entre 6 mois et 1 an, ou que c'est entre 2 et 4 ans, est-ce que vous voulez le savoir, toi, Eric?
Moi, oui, oui.
Tu veux le savoir? Toi, Marie-Jo?
Faut être sûr là, de s'entendre que, admettons, il n'y a plus rien à faire, puis de traitement à faire, puis que c'est une condamnation. Moi, je voudrais pas le savoir non plus. J'adore vivre avec pas tout le temps ça,
Moi, je veux le savoir. Moi, j'aimerais ça le savoir. Peu importe. Puis j'ai eu la preuve du contraire, moi. Mon grand-père, du côté de ma mère, s'est fait dire de 6 à 8 mois quand on lui a diagnostiqué le cancer. Finalement, ben, il a toffé 6 ans.
Ah ouais.
Arrête.
Ouais, fait que tu sais moi tu sais je comprends que les probabilités sont là, tu sais les probabilités médicales, mais tu sais il y a possibilité que tu aies plus de temps devant toi. Fait que moi j'aimerais le savoir, mais je comprends ceux qui ne veulent pas le savoir.
Ouais.
Voilà.
Les médecins font pas des comptes pour le fun là, c'est sûr là, tu sais mais c'est certain qu'ils n'enjolivent pas la réalité, mais non. Ouais, tu as raison là-dessus, mais il me semble que vivre dans une espèce de d'inconscience là de ce qui arrive, ça peut amener des petites semaines.
Ouais. Moi ça serait plus pour des achats, tu sais, genre acheter payer dans 6 ans mettons, tu sais quelque chose d'avant, vous payez dans 2 ans, tu sais. Là tu t'arranges un peu là-dessus.
Tu le prends sur 10 ans, mais finalement c'est tes proches après qui vont finir le paiement.
C'est ça. Pas grave, tu vas être mort après.
Donc, continuons sur Olivia.
Yes, elle est née en 1948 à Cambridge. Cambridge en Angleterre, qui est quand même une ville de 120 000 habitants. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle a fréquenté la même école primaire que Syd Barrett et David Gilmour de Pink Floyd. Donc, tu sais, elles sont quand même là, du même quartier un peu. Et c'est ça. Et puis là, c'est un petit peu plus tard qu'elle sera partie. Mais il y a son père et son grand-père aussi qui sont vraiment pas n'importe qui son grand-père est un physicien allemand, Max Born, et lui il a gagné un prix Nobel aussi, et puis c'est vraiment là mais lui c'est un allemand, donc elle a de la famille allemande de son côté, et son père lui faisait partie des forces britanniques, et durant la Deuxième Guerre mondiale il fait partie de ceux qui ont capturé Rudolf Hess. Ça c'est en 1941, c'était le dauphin d'Adolf Hitler. C'était lui qui allait prendre la place d'Adolf Hitler, qu'il allait quitter, dans le fond. Et Rudolf Hess a été capturé par les Anglais du côté de l'Angleterre. Et c'est le papa d'Olivia qui l'a capturé.
Ça, je savais pas ça.
Ouais. Il y a des enfants comme ça, des fois. Là. C'est comme le père de Michel Fugain. Le père de Michel Fugain, c'est lui qui était le responsable et qui était à la capture des collabos français qui avait après la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque Charles de Gaulle est rentré au pouvoir, ben on a demandé à quelques personnes, puis lui c'était le responsable d'aller à la chasse des collabos allemands du côté de la France, et c'est lui qui a quasiment capturé quasiment tous les collabos allemands là. Et le père de Michel Fugain, c'est un héros français là.
Ouais, mais tu sais, il y a des choses qu'on apprend comme ça, puis je veux pas te voler un punch, ça fait sûrement partie de ta chronique, mais j'ai vu ta publication sur Facebook, comme ils disent. Puis, tu sais, moi, il n'y a personne dans mon entourage que je peux dire, hey, je suis allée à l'école avec, ou je fais partie de la même classe que telle personne. Toi, Marie-Jo, t'en as-tu des personnes comme ça?
Des amis d'enfance?
Ben, je sais pas, une amie d'enfance qui est rendue, je sais pas, c'est Pierre Bruno, tu sais, ou, tu sais, je sais pas.
Ben, moi, je suis allée à l'école avec Laurent Paquin.
Ah, ouais!
Ah. Ah, c'est cool. Puis, sais-tu qui était son coloc?
Non.
Ta-da-da-da-da-da, votre collaborateur Guy Lambert.
Ah, oui, c'est vrai. Ça, lui, il me l'avait déjà vu qu'il avait été.
Eh oui.
Eh, ça, c'est drôle.
Puis, je me souviens, Laurent avait dit, ah, ben là, je finis l'année, mais je m'en vais à l'école de l'humour. Je me dis, ouais, t'es-tu malade, là? On va pouvoir animer à la radio, là. Puis, mais là, c'est ça, ben, écoute, moi, en excellente conseillère. Voyons donc, reste en radio.
ça me fait rire. Moi, j'ai un de mes anciens, en fait, un de mes anciens collègues, je vais le dire comme ça pour rester le plus flou possible, qui avait déjà dit à une certaine époque à une radio à quelque part au Québec, à P.Y. Lahr, qu'il allait jamais faire de la radio puis du média de sa vie, alors qu'il gagne très bien sa vie avec la télé et la radio à Montréal. Toi, t'es-tu déjà allé à l'école ou avec quelqu'un?
Au CRTQ, oui, parce que j'étais avec justement P.Y.
T'étais avec P.Y. T'étais avec Christian, je pense, de Rivière-du-Loup.
Oui, il y a Christian, Christian Duchesne qui avait aussi, bon, il y en a eu quelques-unes aussi qui ont été dans les médias de Québec pendant quelques temps. Il y a Marc Toussaint qui fait les nouvelles du côté de Sherbrooke, je pense depuis 15 ans à peu près, là, c'est lui
mais
qui est là.
Mais tout ça pour en venir à Olivia, qui, elle, est allée à l'école avec des tout nus quand même.
Oui, ben elle est pas allée, moi j'ai pas l'information parce que je sais pas, là, j'ai pas vérifié les âges, là. C'est sûr, c'est dans la même génération, mais c'est la même école primaire.
OK, même école primaire que...
Oui, c'est ça, David Gilmore et Syd Barrett.
C'est quand même une belle école.
Ouais.
Les célébrités à cette école-là, il est en or.
C'est sûr qu'il y a un mur avec
Puis juste une petite parenthèse pour Pink Floyd, c'est que oui, c'est David Gilmour qui a pris la place de Syd Barrett dans le groupe. Mais sauf que Syd Barrett était déjà ami d'enfance avec David Gilmour. Et c'est Syd Barrett qui a appris à jouer de la guitare à David Gilmour. C'est lui qui a appris. Et c'est ça. Donc, tout ça pour dire que Olivia, ben, elle vient quand même là, d'une famille assez noble. Et c'est à l'âge de 5 ans qu'elle va aller demeurer en Australie. Puis là, ben, ça va rester là jusqu'au divorce de ses parents. À l'âge de 11 ans, elle va revenir en Angleterre. Et aussi, elle va faire une chanson en français. Le titre, j'ai celui en anglais parce qu'en 74, la chanson sera numéro 1 aux États-Unis, I Honestly Love You. Mais elle va faire une version française. Et la version française va avoir beaucoup de succès, là, vraiment, là, du côté européen.
Chanteuse avant d'être actrice ou actrice avant.
Elle a été chanteuse avant.
Ah, tu vois, moi, je pensais que c'est le contraire. Moi, je connais rien d'Olivia Newton-John. Okay, pour vrai, je connais rien d'elle.
Elle a commencé dans les années 60. Elle jouait des chansons de d'Elvis. Elle prenait reprenait des chansons d'Elvis dans les années 60. Et, tu sais, puis là, c'est ça. C'est un petit peu plus tard qu'elle va aller rester aux États-Unis. Et la pièce qu'on entend, c'est A Little More Love, qui raconte un peu de l'amour, mais l'anxiété de l'amour aussi, tu sais. La personne qui est en amour, puis tu sais, la personne qui ose pas faire les premiers pas, qui est anxieuse, ouais, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi, et ainsi de suite, et puis c'est ça, c'est une personne, tu sais, l'histoire un peu d'une personne qui est nerveuse, là, tu sais, et c'est ce qu'elle raconte un peu dans cette chanson-là.
Je me sens un peu niaiseuse de ne pas avoir su qu'elle était chanteuse avant actrice, mais tu sais, ouais, je me sens un petit peu niaiseuse là-dessus. Mais en même temps, ça m'explique beaucoup de choses parce que j'ai toujours trouvé qu'elle était tellement sa coche vocalement que maintenant, mais je connais vraiment rien. Vraiment rien d'Olivia.
Ah, ben, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Ben oui, merci, tu vas nous éduquer sur elle.
Et celle qu'on entend en ce moment, c'est peut-être. Entre guillemets, sa chanson plus rock, là. Tu sais, elle est un petit peu plus rock, là, là-dessus.
Ouais,
là. C'est
rock.
Beaucoup moins pop de ce qu'on va entendre tantôt, surtout l'époque Grease et Dianadou. Mais celle-là, c'est vraiment, là, peut-être sa chanson la plus rock, comme on peut dire, là.
Il y a beaucoup de femmes qui ont idéalisé son look la jalousaient à une certaine époque.
Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Puis c'était un peu un... entre guillemets, sexe symbole, mais on va justement décortiquer un petit peu là-dessus tantôt. Tu sais, c'était pas la fille provocante, là.
Non, t'sais. Non, du tout. La seule fois qu'elle a été provocante, c'est quand elle a mis son jacket de cuir dans Grease, là.
Ouais, c'est ça, là, tu sais. Donc, 1974, elle perd sur le marché américain. Et toujours la même année, elle participe au Eurovision. Elle représente l'Angleterre. Elle va terminer quatrième. Et les gagnants de 74, l'Eurovision, c'est le groupe ABBA, qui, à partir de là, avec Mamma Mia, ils vont vraiment exploser la planète disco. 1975, on l'encourage un peu des gens autour d'elle à dire, tu devrais plutôt quitter l'Angleterre et t'installer aux États-Unis. Et c'est ce qu'elle va faire. Et elle s'en va dans le monde du country, du western.
Oh.
Ouais, carrément. Et c'est là qu'elle va remporter beaucoup de succès. Les Grammy et ainsi de suite. Elle a gagné le Grammy, l'artiste féminine country de l'année. Et oh, en plus, ouais. C'est ça, elle a gagné aussi un autre Grammy, la révélation féminine de l'année, où elle a terminé devant Dolly Parton, Tanya Tucker et Tammy Wynette. Sauf qu'elle a eu, je sais pas si tu te souviens qu'on a fait notre spécial Shania Twain.
Ouais.
Les gens de Nashville n'acceptaient pas tellement Shania.
Ouais,
ben,
ouais.
Ça a été pareil avec Olivia.
J'imagine.
Tu sais, l'anglaise qui arrive, puis elle vient ici.
Mais c'était comme Shania, c'est ce qui arrive avec Twain, c'est que c'était la femme parfaite. C'était pas la femme qui sentait le foin, là. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Elle arrivait, tu sais, d'une place un petit. À changer un peu l'image qu'on avait du country.
Fait ouais, que en plein ça.
Les gens qui étaient pure laine dans le country aimaient moins son look, puis trouvaient ça dérangeant.
C'est ça. Ça a été un petit peu pareil avec Olivia, tu sais. Et le fait aussi, tu sais, que c'est pas un marché naturel. Ce qu'on entend, c'est un extrait de Grease. C'est le producteur Alan Carr à une soirée à Los Angeles. Il lui dit, écoute, est-ce que ça tente d'avoir le premier rôle féminin de ma prochaine comédie musicale? Ça s'appelle Grease. Et justement, elle embarque dans l'aventure Grease.
Jamais compris de ce tout-là. Il y a un cri, je crois que c'est à la fin de John Travolta, que je trouve insupportable.
Ah ouais?
Je sais pas si tu l'as déjà entendu, là.
Je le réécoute.
Ah, on va peut-être l'entendre d'ici la fin au pire. Je vais essayer de m'en souvenir puis de le monter. Puis ça, en passant, je sais que je l'ai dit pendant la pause à toi et Marie-Jo, là. Mais c'est l'album que j'ai vu le plus dans des vinyles usagés que je suis plus capable de voir la pochette. C'est pas la plus belle pochette ever. C'est une petite pochette avec un petit verre sapin bleuté, je vais dire ça comme ça, avec un crayon pas rapport manchouillé sur le top, marqué Grease avec le logo. Puis on voit une belle photo d'Olivia puis John Travolta, mais je suis plus capable de voir ça d'un pile de vinyle. Ça a vendu, là.
Ah,
vendu
Grease, ça a été énorme. Puis dans des films musicaux, ça a sûrement été le plus big, mais sans rien enlever à Saturday Night Fever, sans rien enlever, même à cette époque-là, il y en avait beaucoup de films musicaux, là, tu sais. Ouais. Jesus Christ Superstar, ça jouait à la tour de bras, ça. Et il y en avait plusieurs, il y en a d'où après, puis d'autres artistes aussi, là, qui embarquaient là-dessus, les opéras rock qui se mélangeaient avec tout ça en plus. Et aussi, on faisait, par exemple, de la musique et on ajoutait un film, comme The Wall de Pink Floyd, tu sais. Le film qui est venu, donc, il y avait cette vague-là où ça marchait beaucoup, mais sauf que Grease, ça a vraiment été vraiment, on venait un peu dans les années 50, l'époque rockabilly, justement, ouais. Tu sais, les T-Birds, là, tu sais, et puis...
tu sais que ça a été banni à certains endroits, ce film-là, en France?
Ah, ça se peut,
ouais. Ouais, parce que ça a été, cette année ou l'an passé, en tout cas, j'en avais parlé avec Michel Beausoleil, ça a été considéré comme un film misogyne. Donc, il y a certains secteurs de la France qui ont interdit ce film-là, puis qui l'ont enlevé de la majorité des plateformes, etc.
Et pourtant, c'était à l'époque, là, le rockabilly.
Ben, tu vois beaucoup de... Tu sais, le fameux terme que plusieurs utilisent, là, voyons, t'as un peu... Masculinité... bon, je l'ai mal dit, là, mais toxique, là. Tu sais, souvent, t'sais, des petits bums, là, qui se revotent, là, puis là, qui sont plus cool. cool que tout le monde, tout ça. Puis, ouais, mais c'est une certaine époque, tu sais. Honnêtement, moi, je vois pas de problème. Je trouve que c'est encore un beau et bon film. Puis, je serais pas gênée de montrer ça à des jeunes femmes, là. Je vois pas le problème, là. Je vois pas de, tu sais. Mais bon, ça fait partie des trucs qui sont considérés maintenant inacceptables à certains endroits.
Ah, parfois.
Ouais, ouais, on est dans ce monde-là.
Ouais. Incroyable. Là, on est rendu là. Mais c'est ça, tu sais, c'est une trame sonore aussi qui va avoir beaucoup de succès, qui va se vendre à des millions. Assez, il va être tellement vendu qu'on va le voir dans les usagers en vinyle.
Ah oui, puis capable.
La prochaine chanson, oui, c'est ça, c'est une balade et j'hésitais avant de mettre une balade, OK? C'est Hopelessly Devoted to You. Oh. Et c'est une très bonne chanson, là, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Sauf qu'il y avait un petit astérix pour le film. C'est que dans le contrat d'Olivia, c'est qu'elle stipulait qu'elle devait avoir une place en solo. Sauf qu'on n'a jamais été capable de trouver une place dans le film pour cette chanson-là. Et elle fait partie du film. À un moment donné, on la voit être avec des chums de filles, puis ouais. Elle sort dehors, puis elle se met à chanter. Sauf que ça a été ajouté vraiment... Le tournage de tout ça, ça a été après le tournage du film.
Ouais,
complètement à la fin, parce qu'on savait pas comment embarquer cette pièce-là dans le film. Donc, à un moment donné, ben c'est ça, c'est des images qui ont été faites complètement à part du film. Après le tournage, c'est la raison pour laquelle on la voit vraiment tout seul et parce que là, tout était terminé là, du côté du tournage. Et là, c'était une façon d'embarquer la chanson dans le film de Grease.
Chanson, tu sais, ça pue une certaine époque. Ça, c'est le cas, là.
Ah oui.
Ah oui, ça sent une certaine époque.
Les années
70. Ah oui, à côté, là.
Et ce qui est particulier aussi avec cette chanson-là, c'est que c'est. Grease a eu un seul Oscar. Et c'est grâce à cette chanson-là, en plus.
Ah, ouais?
Ouais, okay. Meilleure chanson d'un film, là.
Alors qu'ils l'ont ajouté dernière minute.
C'est ça, ça a été ajouté à dernière minute, mais c'est le seul Oscar que Grease a remporté grâce à la chanson d'Olivia.
Moi, avoir, il n'y a pas ça à mon époque, à moi, là, mais avoir un solo romantico-cochon là-dessus, là.
Yes.
Ouais, je ne vivrai jamais ça.
Donc, c'est la période Grease, tout va bien, et ainsi de suite. Et là, on tombe vraiment dans les années Olivia. Vraiment, là, 80, 81, là, c'est là où elle va devenir un peu la reine du pop, la reine de la musique.
Puis déjà connue.
C'est ça, tu sais. Et c'est l'explosion de sa carrière parce que elle va faire deux autres films aussi, malgré que ça n'aura pas le même envergure que Grease. Là, tu sais, on est loin de là. Mais au niveau trame musicale, par exemple, ça sera complètement autre chose. Mais où elle va sortir vraiment un album vraiment là où elle va vraiment réussir à sortir, parce que là, oui, elle a eu du succès grâce à Grease, elle a sorti quelques bonnes petites chansons auparavant, mais c'est l'album Physical. Et l'album Physical qui va devenir vraiment là une chanson qui va influencer les gens à faire de la réhobi, tu sais, puis c'était vraiment l'époque où ce que les gens, bon, faisaient beaucoup de jogging à cette époque-là, et vraiment la chanson Physical sera un peu comme Eyes of the Tiger avec Rocky, là, tu sais, qui va être une chanson que quand tu t'entraînes, ben, Physical va jouer automatiquement au gym, là.
Moi, je t'écoute pas eu, Eric, je vois plein d'hommes en speedo, très musclés et des belles fesses. Fait que moi, j'écoute.
Ouais, mais
plus.
Tu vas en avoir un peu d'autres sortes aussi dans la vidéo. C'est un peu humoristique.
Ah, oui. chanson qui, moi, j'entends plus jamais pareil à cause de la télésérie The Office avec Michael Scott et Oli, alors qu'ils veulent faire une conférence pour le membre de leur équipe sur ethical, donc sur ce qui est éthique, puis c'est Let's Get Ethical, puis là, ils dansent là-dessus. Donc, moi, maintenant, j'entends plus Let's Get Physical, j'entends Let's Get Ethical. Bref.
Yes. Donc, l'influence qu'elle avait, c'est sur l'aérobie qui est devenue très populaire grâce à Olivia. Et la chanson aussi en tant que telle, hein, c'est que ça a été numéro un pendant 10 semaines de suite. Et elle a été à une semaine de battre le record de Hound Dog d'Elvis Presley. Et en plus, ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que il y avait la pièce Waiting for a Girl Like You de Foreigner qui était toujours en deuxième position puis qui tentait d'être la première, n'était pas capable d'être
numéro un.
C'est quand
même hâte de dire que tu t'es battu pendant des semaines Foreigner.
C'est ça, c'est ça. Et lorsqu'elle a été détrônée, elle a été détrônée par I Can't Go For That de Hall & Oates.
Ah
oui. Et c'est ça. Et c'est l'autre semaine après que Foreigner ont réussi à être numéro un avec Waiting for a Girl Like You. Mais ça a été 10 semaines de suite numéro un. Et là, on parlait si Olivia faisait de la controverse. C'est une buveuse de lait, comme on dit, là. Tu sais, c'est une fille, la fille parfaite, là, tu sais. Et c'est vrai, tu sais.
Oh oui,
et puis, ouais, en plein ça. Donc, il y a eu une petite. On a gratté puis on a trouvé une petite controverse du côté d'Olivia. C'est qu'on a dit que c'est une chanson qui chante.
Attends un peu, on écoute.
Une chanson sur le sexe.
Hein?
Ouais. On dit que Physical est une chanson sur le sexe.
Oui, clairement. Là.
Et puis,
c'est ça.
Oui, effectivement. Puis même que l'État de Utah, surtout Salt Lake City avec les Mormons, ont banni la chanson parce qu'on disait non, ça fait juste parler de sexe dans la chanson.
Mais Let's Get Physical, c'est pas mets-toi en forme.
C'est ça. C'est une chanson sur le sexe.
Oh, ouais, on s'entend.
C'est ça, les vidéos, dans le fond, c'est pour noyer le poisson, pour pouvoir pas faire trop de scandale, mais c'était clair que c'était ça.
Ben en même temps, elle regarde des beaux gars musclés, puis elle les flatte, puis elle leur dit de faire de l'exercice.
Mais, Raphaël, t'as-tu déjà vu le vidéo complet?
Ben oui, c'est ça que je fais depuis tantôt. C'est je pense à 3-4 fois que je le vois.
Parce qu'à partir du début, ils sont comme tout flasques, là, mais quand ils deviennent physical, là, ils deviennent cut.
Au début, c'est ça. C'est ça.
Mais c'est plus fun à la fin.
Il y a des belles fesses. Yes. Ben merci beaucoup, Eric. On fait une courte pause et on revient avec toi. On fait le tour de la carrière d'Olivia Newton-John avec Eric Flynn et Marie-Jo Longval.
Raph dans le Dash. À Choc 88.7.
C'est tout à fait contrôlé.
C'est Raph dans le Dash.
Tu lui dois faire ça.
Jusqu'à 18h.
Tu lui dois.
Avec Raph Beaupré.
Pas juste Raph Beaupré, Marie-Jo Longval, Eric Flynn pour encore plusieurs minutes. On fait le tour de la carrière d'Olivia Newton-John qu'on a perdue cette semaine.
Ben c'est ça, puis ça a été vraiment, là, elle a touché vraiment une génération. C'est ce qu'on on jasait avec Marie-Josée, tu sais. Comme notre génération, nous autres, tu sais, quand on était jeunes, c'était elle la chanteuse la plus hot au monde, là, tu sais. C'était la plus populaire, c'était le comparatif. Elle était toujours envers Olivia Newton-John. Bon, ben elle est plus belle qu'Olivia. Elle est moins belle qu'Olivia. Tu sais, c'était vraiment, là, la chanteuse la plus populaire. Et là, on est vraiment, là, les années physical. Là, on tombe vraiment au sommet de sa carrière, là, tu sais. Et c'est la fin du disco, mais comme celle qui va tenir encore le disco, là, tu sais. Et qui va être un peu une transition vers le pop des années 80, là, tu sais, quand il y aura l'arrivée, justement, des Madonna, des Cyndi Lauper, de ce monde, là. Ça sera vraiment elle qui va être, là, dans le pop, là, qui va être un petit peu entre les deux. Et une des chansons aussi qui a marché beaucoup dans l'album Physical, là, c'est la pièce Magic. Et ce qui est, c'est.
Non, tu m'as pas donné Magic. Tu m'as donné Make a Move.
Oui, t'as raison.
Désolé.
Ouais, Make a Move. Oui, c'est vrai, c'est
vrai. Mais continue avec Magic, ce que tu avais à dire sur Magic.
Ouais, ben c'est ça, on va en parler tantôt de Magic, là. Mais c'est ça. Ben Magic, c'est ça, c'est la toute seule chanson qui a le mot Magic qui était en première position dans l'histoire du Billboard. Et jusqu'à ce jour, il y a une seule chanson que le mot Magic a été en. Putain, il y en a eu plein de titres.
On va tout de suite la mettre, là, désolé, là. Il était pas en bon ordre. Voilà.
C'est ça.
Magic.
Ouais. Il y a eu Puff the Magic Dragon de Peter Paul Murray. Mais aussi Magic Stick de 50 Cent. Ils ont atteint la deuxième position, mais la seule chanson ayant le mot Magic qui a été en première position, ben, c'est la pièce qu'on entend en ce moment.
You know I will be kind. I'll be guiding you. tu regardes le look d'Olivia Newton-John, c'est, tu disais, une buveuse de lait, là, dans le sens que, tu sais, elle est sage, sage, sage. Puis le plus élevé qu'elle a eu, c'est d'écrire la chanson Physical puis de mettre des bons messieurs dans le vidéoclip, là.
Ouais.
Moi, être Olivia Newton-John à son époque, ou peu importe quelle époque, là, il me faudrait des bodyguards, là. Dans le sens que tu vois que c'est une bonne petite fille, puis elle dégage de la naïveté aussi. Ça a de l'air tellement gentille, trop calme, ça, passive. Moi, être Olivia, j'aurais peur de me faire attaquer ou je sais pas. Elle dégage beaucoup de fragilité, puis de naïveté.
C'est vrai, c'est vrai.
Bref, fin de la parenthèse.
Ouais. Magic aussi, ben, c'était la chanson préférée de John Lennon avant son décès. Il avait raconté un magazine comme de quoi qui appréciait beaucoup cette chanson-là et qui était fan de la chanson Magic et aussi de All Over the World de Electric Light Orchestra. Donc, ce qui nous amène vraiment, ben, c'est Magic qui nous amène vraiment au film Xanadu. Et là, le film Xanadu qui arrive. Plusieurs vont dire « Ah, ça a été un flop. » Au niveau musical, ça a été l'enfer. Parce que, bon, Xanadu, presque toutes les chansons ont été écrites par Jeff Lynne, Electric Light Orchestra. Et c'est ça. Xanadu, c'est, qui vient du mot, ça veut dire paradis, dans un des poèmes de Samuel Coleridge, qui lui a inspiré presque toutes les chansons d'Iron Maiden, là, de Steve Harris. Et aussi, c'est qu'elle joue dans le film avec Gene Kelly. Gene Kelly, ceux qui se souviennent de lui... C'est un peu le Grégory Charles des Américains, là. T'sais, le gars, il est bon dans tout. C'est un des plus grands danseurs de l'histoire de la musique, un des plus grands chanteurs. T'sais, il est bon dans tout, là, t'sais. Après Fred Astaire, c'est peut-être le plus grand danseur de tous les temps, là, t'sais. Et même, il a même embarqué avec lui Frank Sinatra dans une danse, les deux ensemble, là. Puis tu vois, Frank Sinatra, il a vraiment pratiqué souvent, mais tu vois qu'il y a plusieurs coches en arrière de Gene Kelly, là. Gene Kelly qui était puis lui, il avait dit qu'il ne voulait plus danser du tout. C'était terminé pour lui, la danse.
Ça, c'est ça, dernière.
Et c'est... Olivia a sorti son charme et l'a convaincu de sortir ses souliers à claquettes et ainsi de suite pour revenir danser. Alors, c'était la dernière fois qu'on voyait vraiment là, Gene Kelly danser. Et également aussi... il y a un des moments forts dans le film, c'est justement... Puis c'est là que Olivia Newton-John... Oui, elle chante. Oui, c'est une actrice. Mais faut pas oublier que c'est une grande danseuse. Ouais. C'était une des meilleures danseuses de l'époque. C'est que à Grease, là, c'est que on remarque juste John Travolta, le talent qu'avait John Travolta, ouais, là, comme danseur. Là, t'sais. C'était incroyable. Là, t'sais. Et surtout, on l'avait vu dans Saturday Night Fever. T'sais. Mais sauf qu'on n'a jamais marqué le talent de
danseuse,
Olivia. Et lorsqu'elle danse, à un moment donné, elle danse en solo avec... Gene Kelly, et quand tu la vois danser, là, c'est incroyable, là, tu sais. Et c'est là que tu réalises que c'est en plus une grande danseuse, là. Oui, oh, oui.
Mais Xanadu, je sais qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas aimé, mais moi, j'ai tout le temps aimé ce chanson-là.
Ah, oh, moi aussi.
Ah,
mais
la
le
chanson,
film.
Oui.
Ouais, mais le film. C'est le film qui a été un flop.
Okay,
ouais.
Écoute,
il
fallait aimer les
patins
à roulettes puis les brillants. Qu'est-ce que
c'est?
Bien dit,
Marie-Jo. Voilà, ça, c'est ça. Le film avait coûté 20 millions de dollars en tout.
T'es sérieux?
Ouais, en 1980. Puis, faut pas oublier que Star Wars avait coûté 11 millions deux, trois ans avant. Là,
OK, ouais, c'est pas la même affaire.
Non. Donc, est-ce que le film est sorti en début des années 80 puis l'époque disco était out? Il y aura 50 000 raisons pour dire pourquoi que le film a été un flop, là. Mais un flop, mais il s'est quand même bien vendu. Moi, j'ai aimé le film pareil, là, tu sais. Mais sauf que je sais que...
Faut voir, tu sais, faut prendre ça pour un film en légèreté.
C'est ça, en plein ça. Donc, ça a été toute une performance aussi de Gene Kelly qu'on a vu une des dernières fois dans le monde du cinéma. Donc, ça, c'était les belles années d'Olivia, 80, 81 et ainsi de suite. Ça, elle a continué à être populaire au niveau musical. Mais là, oh, un petit flop au cinéma, ça se vend pas trop. Et elle va revenir aussi avec Second Chance, un film avec John Travolta qu'elle va refaire. Ils vont recréer le duo ensemble. Et c'est ça, sauf que ça va devenir un flop total, là, encore pire, là, tu sais. C'était pire. Puis en plus, on a décidé de faire un Grease 2. Brillantine 2, qui est avec Michelle Pfeiffer, et qui va devenir un autre flop là, au niveau cinéma. Là, c'était vraiment... Là, on tombait vraiment là, dans les débuts des années 80. Là, on passait à autre chose. Puis là, on avait besoin... Là, on était tanné du disco, on était tanné du New Wave. On avait besoin d'un son qui était beaucoup plus rude aussi. Et c'est là, tu sais, l'explosion des groupes comme AC/DC, Van Halen, le hard rock. Là, c'est ça, le gros hard rock. Là. Donc, on a, c'est ça, 1992, on va elle surmonte, elle se bat contre le cancer du sein, et c'est ça, c'est ça va revenir en 2013. Il y aura comme une rechute, et aussi bon, en 2018, on parlait de ça, c'est qu'elle était au niveau stade 4 et qui va l'obliger à annuler sa tournée canadienne et américaine. Donc c'est ça. Et bien entendu, cette semaine, elle nous a quitté. Les hommes dans sa vie. Les hommes qu'elle a eu dans sa vie, bon, elle a marié là, comme de 84 à 95, et puis Matt Latanzi, avec qui elle va avoir sa fille, qui est Chloé Rose Latanzi. En 2005, elle va se fiancer avec un caméraman, qui est Patrick McDermott, OK? Et lui, à un moment donné, il disparaît en mer. Donc, on retrouve pas son corps du tout, puis...
Disparition.
Ouais, en 2005. Et là, on le perd, mais sauf qu'on va le retracer en 2010. Oui, on va le retracer en 2010 au Mexique.
En vie?
Oui. Et puis, il a décidé de refaire sa vie, puis...
Sans dire bye-bye.
C'est ça, il a donné comme explication qu'il veut qu'on le laisse tranquille. Et ça a été quand même assez mystérieux, ce gars-là, là, tu sais. Mais le gars est toujours vivant, puis il y a comme...
Tu disparais de la vie d'Olivia Newton-John, c'est bizarre. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui était dur à suivre.
Ah non, ça c'est sûr. Ah, ben... Puis en 21 juin 2008, elle va se marier au Pérou, l'homme d'affaires John Easterling, avec qui c'est lui qui va nous faire l'annonce du décès, là... sur ses réseaux sociaux cette semaine. Ce qu'on écoute, ben c'est ça fait partie de l'album Physical au début des années 80.
Make a move on me.
Yes.
Ah, le clavier puis le synthétiseur, ça j'aimais ça là. Moi, je l'ai tout le temps dit, les années 50, les années 80, là, ils m'ont d'amour.
La voix est plus sensuelle aussi dans cette chanson.
Dernière chanson pour terminer?
Oui, qui faisait partie de la trame sonore avec le film qu'elle a fait là, en 83 avec John Travolta. Et là, ben, c'était vraiment là, la fin pour Olivia au niveau du succès. Là. T'sais, là, c'était terminé. Il faut dire qu'en 1984, c'est l'arrivée de Madonna aussi. Madonna qui était très jolie, provocante,
tout déchirée,
sexy, qui était tout le contraire aussi au niveau de l'image d'Olivia. Tu sais, c'était tout. Puis en plus, elle savait super bien danser. Donc, la nouvelle reine du pop arrive dans le décor avec Like a Virgin, et on connaît le reste avec Madonna, jusqu'à hier soir avec Jimmy Fallon. Et c'est ça, donc, si on passe à autre chose, tout simplement, et l'ère de Olivia Newton-John est complètement terminée. C'est sûr qu'avec les petits flops qu'il y a eu à la fin, comme justement avec le film là, Second Chance, ça n'a pas tellement aidé non plus. Ce qu'on entend, c'est Twist of Fate.
Twist of Fate. Et moi, il y a une chose, là. Tu sais, on a parlé un peu de... Bon, parce que je veux le dire, je l'oublie déjà, là. Voyons l'autre acteur, là. John Travolta, merci, excusez-là, j'ai eu une bulle au cerveau. John Travolta, là, ça, c'est une des, tu sais, des personnes qui vieillit, mais vieillit mal, là, qui a tellement pas pris soin de lui à une certaine partie de sa vie, qui est plus reconnaissable, alors qu'il a été un dieu pour plusieurs femmes, tu sais, visuellement, un beau bonhomme, il danse bien, il chante bien, il est parfait, il a quoi de placer parfaite, mais l'avez-vous déjà vu récemment, là, un peu, là?
Ben, il a rasé ses cheveux, en tout cas.
Il a rasé ses cheveux, il fait de l'embonpoint. Ah oui, c'est
ça. Ça fait quand même un goût.
Moi, ça fait quand même plusieurs années là,
Ça remonte à l'époque de Primary Color, là, lorsqu'il joue le rôle d'un président américain. Là, puis ça, c'est dans le milieu des années 90. Ouais,
il a passé de l'homme parfait à l'homme qui n'a pas pris soin de sa santé là, pendant un certain bout de sa vie.
C'est ça. Puis il y en a beaucoup que c'est comme ça. Là. Tu sais, l'acteur, là, moi je tombe dans le cinéma, mais il y a un acteur qui était super musclé, là, qui joue le rôle de Spartacus. Là,
dans 300, là?
Ouais, dans ce style-là, mais tu sais, les esclaves qui se battent, là.
Ok, je peux pas t'aider, je suis pas bonne dame.
En tout cas, il joue le rôle de Spartacus.
Lui aussi,
là.
Il l'a échappé.
Ouais, lui aussi, c'est l'enfer. Tu sais, le gars était super musclé, puis aujourd'hui.
Tu parles de Russell Crowe, peut-être?
Oui! C'est ça.
Ok.
Yes.
C'est en plein ça. Ouais, c'est ça, d'un autre qui l'a échappé.
Moi, ce que j'aime, c'est qu'à trois, on est tout le temps capable de faire quelque chose de pas pire. Yeah.
on se complète.
On se complète super bien.
Eric Flynn, merci beaucoup pour tous ces détails sur la carrière.
C'était super le fun.
D'Olivia Newton-John. Repose en paix. Tu en as marqué plusieurs, inspiré d'autres. Donc, c'est quand même un beau succès et une belle carrière. Donc, elle mérite le repos. Eric, on se dit à la semaine prochaine.
Ouais.
J'ai hâte de voir c'est quoi tu vas nous suggérer. Écoute, on s'était dit Elton John à un moment donné.
Ouais. Mais là, j'ai peut-être. Elton John, il faudrait que j'en travaille. Mais ça se peut qu'on le fasse en deux semaines, Elton.
Ah oui. Ah, mais ça ne me dérange pas. Donne-moi deux semaines d'Elton n'importe quand. Hey, salut, Eric. Merci.
Bye bye.
À bientôt.